France Culture. Daniel Poli, bonjour.
Bonjour.
Pour ce quatrième temps de nos entretiens à voix nue, je voudrais vous proposer aujourd'hui de parler des rapports entre science et politique, le savant et le politique, et la façon dont la science, la recherche, peut et ou doit faire bouger les gouvernements. J'en profite pour dire que nous enregistrons ces émissions fin mai 2025 dans les locaux de l'association Bloom, qui est une association de protection des océans, avec laquelle précisément vous travaillez, vous collaborez.
Oui.
Depuis combien de temps ?
Une vingtaine d'années, parce que j'ai fait la connaissance de Claire, qui a fondé Bloom, avant qu'elle fonde Bloom. Elle a rendu visite à un ami, Philippe Curie, et ça l'a inspiré, je crois. En fait, moi, je me suis posé la question de la politique quand je suis arrivé au Canada. Parce que j'avais travaillé donc dans les pays du Sud et j'avais m'étais comporté comme il se doit. C'est-à-dire, on était censé faire la science et des managers, des gestionnaires de la pêche étaient censés utiliser ça pour gérer la pêche.
Et prendre des décisions.
Donc, c'est ce que j'avais appris à l'école. Et j'avais bien sûr remarqué que, en aucun cas, il y avait une relation entre les décisions qui étaient prises. Par exemple, un ministère de la pêche qui achetait une centaine de bateaux à la Norvège et l'état des stocks. Donc, les scientifiques n'avaient aucune relation avec la ressource. De toute façon, ils travaillaient pas forcément bien. Et les politiques étaient complètement séparées de la science. Donc, je suis arrivé au Canada, où je m'attendais à ce que les choses soient différentes. Mais bien sûr, le Canada venait de détruire une ressource incroyable, donc la morue. Et j'ai remarqué que, en fait, il y a aussi, la science, bien sûr, était bien faite, mais la politique, prenait des décisions complètement indépendamment de cette science. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, parce qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Et donc, j'ai pu voir que, en fait, la société civile et les ONG environnementales sont un levier que les scientifiques peuvent utiliser. Et donc, j'ai contacté plusieurs ONG et je leur ai proposé de les aider. Et ça a été bizarre parce que les premières semaines ou les premiers mois, ils arrivaient seulement, les collègues, à avoir des choses à court terme, c'est-à-dire signer une déclaration contre telle et telle chose et tout. Et je me suis bien rendu compte qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec des scientifiques sérieux. Ils ont bien sûr des gens qui ont fait des études scientifiques, mais ils l'utilisent dans un contexte activiste. Ils n'arrivent pas, à l'époque, ils ne savaient pas comment utiliser un scientifique qui fait sa carrière dans la science et qui produit des papiers, des études qui sont utilisables. Alors j'ai dû créer c'est-à-dire anticiper ce dont ils auraient besoin. Parce que bien sûr, les ONG n'ont pas géré une pêcherie d'une année à l'autre. C'est plutôt la vision stratégique qu'ils doivent avoir. Par exemple, la relation entre la pêche artisanale et la pêche industrielle, la protection de l'environnement, c'est des trucs à long terme, c'est pas des décisions à court terme. Et donc j'ai travaillé par exemple sur la pêche européenne et j'ai pu montrer à WWF, le WWF donc World Wildlife Fund, que il était absolument nécessaire de revoir la politique commune des pêches de l'Europe. Et ça a bien marché. Et donc, j'ai continué sur ma lancée. J'ai offert à différents groupes de faire des études scientifiques qui leur donnent une perspective large pour leur action. Et finalement, j'ai attiré l'attention de grands groupes philanthropiques, le Pew Charitable Trust. Et alors là, ils m'ont donné des sommes importantes pour créer un contexte dans lequel on peut puiser des inspirations de conservationniste. Donc, les travaux que je fais, ils sont utiles long terme, mais pas pour le court terme. Le court terme des ONG qui travaillent sur l'océan, c'est combattre telle et telle décision à court terme. Mais à long terme, ils ont besoin d'informations sur les aires marines protégées, sur l'effet des aires marines protégées, sur les prises réelles qui sont faites et non pas les prises rapportées par les États et autre chose. Donc, je vois la recherche que je fais, c'est pour les ONG, surtout pour les ONG et pour les pays du Sud, mais c'est pas pour le court terme, c'est pour le long terme. Et donc, j'ai créé le Sea Around Us comme instrument pour avoir une vue d'ensemble des pêcheries mondiales et des pêcheries de chaque pays pour pouvoir intervenir. Mais je dis pas il faut intervenir comme ci ou comme ça. C'est quand on voit le contexte de la pêche d'un pays, on peut en déduire selon qu'on travaille, disons, sur, je sais pas moi, sur les femmes dans la pêche ou les pêcheries artisanales vis-à-vis des pêcheries industrielles, ils peuvent utiliser nos données. Et ils le font d'ailleurs. Donc, voilà comment j'ai assimilé la relation, parce que je perçois les ONG comme le seul moyen que les scientifiques ont pour amplifier leur effort, pour les rendre visibles aux politiciens. En aucun cas, ils lisent pas de papiers scientifiques. Donc il faut qu'ils soient perçus, et ils sont perçus par l'intermédiaire de la politique des ONG, et aussi par les journalistes. Donc, chaque papier que je fais, je regarde s'il est potentiellement consommable par un public. Et s'il est consommable, parce qu'il y en a d'autres papiers qui sont purement techniques, que c'est pour des collègues, des autres scientifiques, les papiers qui sont consommables, qui sont accessibles au public, j'ai une journaliste qui travaille dans mon projet et qui fait une conférence, press release.
Un communiqué de presse.
Voilà. Alors, elle fait des communiqués de presse que je corrige, qui en général sont très, très bien parce que elle est pas spécialiste du tout, c'est les journalistes. Alors, je lui donne un papier, disons, compliqué, abstru, et puis ce qu'elle comprend, elle le met dans le communiqué de presse. Ensuite, elle le corrige, elle l'envoie à des collègues, et les choses qu'on écrit, en général, sont reprises par des tas de magazines, de journaux, aux États-Unis, au Canada, et même en France. Donc, j'utilise les ONG et les journalistes comme levier, parce que, en tant que scientifique, je sais que les papiers que j'écris sont jamais lus par les politiciens.
Pour dire, au fond, Daniel Poli, que, ce que vous avez d'ailleurs été un des premiers à dire, que l'océan n'est pas une ressource inépuisable, ce qu'on a longtemps pensé, que c'est pas une ressource naturelle inépuisable, que nous le vidons à cause de la pêche, voire de la surpêche, fait qui peut paraître assez évident aujourd'hui, même s'il faut encore le marteler, et que certains s'y opposent, mais qui a mis très longtemps à être entendu, très longtemps à être accepté. Donc on comprend bien que votre travail est d'être du côté, disons, de l'écologie. Précisément, une partie de la communauté scientifique vous le reproche, en disant c'est difficile de concilier un travail scientifique de très haut niveau comme le vôtre et des convictions environnementales. Votre travail devrait s'arrêter justement à un travail d'études scientifiques et vous allez trop loin, vous avez un engagement trop marqué. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je réponds à ça que on est scientifique et on doit respecter certaines règles. Par exemple, quand on soumet un papier, il est revu par des gens anonymes, on ne sait pas qui c'est, et ça peut très bien être des gens qui, en privé, sont des lobbyistes pour la pêche. Donc, un papier scientifique, il est complètement à la merci de vos collègues. Et donc, si je peux publier dans des revues où il y a des arbitres anonymes, c'est scientifique, c'est pas arbitraire. Par contre, je suis aussi citoyen. En tant que citoyen, j'ai le droit de parler de thèmes qui sont brûlants, entre autres. Et en tant que citoyen, j'ai le droit de m'exprimer. Et bien sûr, si la pêche ou le climat sont des thèmes importants, je peux parler avec des journalistes, je peux parler avec des ONG et dire mon opinion. Et les deux choses sont terriblement séparés. Bien sûr qu'il y aura toujours le choix du sujet lui-même, c'est un choix, disons, politique, quand on fait de la science. Mais ça, c'est inévitable. On peut faire des milliers de différentes choses en tant que scientifique. On choisit certaines choses, mais justement, il faut passer par ces arbitres, par ces anonymes qui font que on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une évidence pour justifier ce qu'on dit. Donc, je suis tout à fait confortable à l'idée qu'on puisse jouer les deux rôles. Et en fait, un scientifique neutre, donc ça voudrait dire qu'il n'a pas d'opinion, et qu'il choisit ses thèmes d'après quoi ? C'est impossible à penser. Le fait est que les scientifiques qui prétendent à cette neutralité, donc qui n'existe pas, se leurrent complètement, ou ils mentent délibérément. Et tout le monde a des collègues qui vous disent que vous êtes biaisé. Ce sont des gens qui sont tellement biaisés par exemple, ils sont financés par des boîtes privées et ils ne le disent pas. Ils ne disent pas qu'ils sont financés par des boîtes privées. Dans les remerciements de chaque papier scientifique, on est censé donner ses sources de fonds. Et ils mentionnent, par exemple, les fondations, ils mentionnent les fonds de l'État, mais ils ne mentionnent pas les fonds privés. Et ça c'est très grave. Par contre, moi, je dis que je suis financé par des fondations philanthropiques. C'est ça.
Vous évoquiez les lobbies de la pêche. C'est un frein pour vous, les lobbies ? Ils sont très puissants ? Ils freinent l'action publique, l'action politique ?
Évidemment, les décisions qui sont prises par l'État, en France par exemple, c'est pas des décisions qui ont été discutées au grand public et c'est pas des décisions qui sont prises dans l'intérêt des pêcheurs artisans, dans un pêcheur et du pays lui-même. C'est des décisions qui ne profitent qu'à certains armateurs, il y en a d'ailleurs très peu, et maintenant, ces armateurs, ils sont surtout aux Pays-Bas. Donc, la pêcherie industrielle, les pêches industrielles de France sont maintenant la propriété, pour la plupart, d'investisseurs, de cinq grandes boîtes néerlandaises qui ont acheté toutes les quotas et qui maintenant dominent complètement la pêche française et la pêche espagnole et la pêche européenne en général. Bien sûr, ce sont des gens qui peuvent téléphoner au président, qui peuvent parler directement au ministre, et aucun pêcheur artisan ne peut le faire. Et donc, les décisions qui sont prises sont toujours au désavantage des pêcheurs artisans. Bien sûr, les discours, dans les discours officiels, on entend exactement le contraire, mais c'est... Les lobbies, ils se cachent. Par exemple, quand on parle des changements climatiques, les lobbies des industries fossiles, ils se cachent, on ne les voit pas, mais c'est eux qui empêchent la transition vers les énergies renouvelables.
Vous évoquiez, Daniel Poli, votre travail avec les ONG, votre travail avec des journalistes. Est-ce que vous considérez que toutes vos actions, en particulier, je pense, pas seulement aux articles scientifiques, mais aux articles dans la presse, qui paraissent dans la presse, aux tribunes, aux livres, vous avez écrit de très nombreux livres, il y a même un atlas global des pêcheries marines qui est apparu en 2016 et qui répertorie la pêche industrielle, la pêche artisanale, la pêche de subsistance, la pêche récréative de 1950 à nos jours. Donc ça veut dire que vous avez à cœur d'informer aussi le public. Est-ce que ça fait partie des moyens d'action ?
Ça fait partie des moyens d'action et ça suffit pas, il faut avoir plus de collègues qui comprennent ça, il faut avoir plus d'ONG, plus d'efforts. Et en fait, ce qu'on a maintenant en Europe, en Amérique du Nord, c'est plutôt le contraire. Il y a la droite qui... Et on perd une bataille après l'autre. Et ça fait peur un peu parce que on est... Dans les années 80, il y avait un effort pour l'environnement beaucoup plus clair. Et il y a certaines victoires qui ont été gagnées. Il y a une certaine conscientisation de la population. En France, ça va. Mais on n'arrive pas à faire passer l'idée, par exemple, qu'on ne peut pas chaluter dans les aires marines protégées, qu'il faut des aires marines protégées. Et c'est peut-être parce que on a trop insisté sur la biodiversité, non pas sur la, sur les prises de, des pêcheurs artisans, je sais pas. Peut-être on a fait des erreurs tactiques, de mettre le poids sur la biodiversité alors qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est le public, plutôt que les prises des petits pêcheurs, des pêcheurs artisans, on aurait pu mentionner ça. Mais de toute façon, jusqu'à présent, le progrès a été lent et parfois même
une régression. On vous reproche aussi, en tous les cas c'est arrivé, une forme de catastrophisme, et d'ailleurs pas qu'à vous, mais souvent aux scientifiques et aux écologistes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le catastrophisme, c'est un mot qu'on utilise, c'est presque une injure, vous êtes catastrophiste. Mais si on annonce des choses qui sont calculables, qui sont assez, c'est assez précis, en fait. Arrhenius, un scientifique suédois, il y a 120 ans, a fait un petit modèle de réchauffement climatique sur la base de deux, trois équations très simples. Parce que, en fait, l'énergie, l'effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, tout ça, c'est bien connu depuis longtemps. Et il avait fait un modèle où il prévoyait donc un réchauffement du climat, de la Terre, et il a pensé que ça serait très grave, mais ça n'aura pas lieu parce qu'on ne brûlera jamais assez de charbon. Bien sûr, maintenant, on est en train de brûler du pétrole et d'autres carburants de la façon dont il croyait qu'elle était impossible. Et bien sûr, c'est en train de réchauffer. Et donc, les gens n'arrivent pas à se rendre compte, parce qu'il faut un peu peut-être connaître la géologie, la paléontologie et tout, que ça va mener à un changement climatique. Et qu'un changement de 2-3 degrés, ça va mener à des milliards de morts. Alors, comment? Parce que la plupart des gens mangent du riz et des autres plantes qui sont très sensibles à la température et qui ont besoin beaucoup d'eau. Le riz est à la limite de sa productivité thermique. C'est-à-dire, si on augmente la température, le riz va plus pouvoir suivre. Et on a de moins en moins d'eau disponible. Donc, si on continue comme on le fait maintenant, on arrive à une situation où il y aura des millions de morts, et des milliards, bien sûr. Et on n'arrive pas à faire passer cette idée. Parce que ça semble étrange, mais c'est tout à fait prévisible. Et les limites des thermiques des plantes sont bien connues. Et donc, on est en train de perdre toute l'agriculture, on va perdre toute l'agriculture. Ne parlons pas des océans, des poissons. L'aliment de base de milliards de gens, c'est du riz. Et la plupart de la consommation de riz se fait à 50 km de là où il croît. Et donc, il est consommé dans les pays le produit. Et si la chaleur augmente, les récoltes de riz vont diminuer. Elles ont diminué cette année fortement au Japon. Il y a un prix énorme de riz a augmenté fortement. C'est là qu'on va. Et chaque fois qu'on parle, on essaie de dire, faut faire attention, faut arrêter d'émettre des trucs. Alors, on va dans une énorme catastrophe. Quand on l'aura, bien sûr, et que des millions de personnes seront au bord de la famine, seront dans une famine, et ils vont essayer de faire quelque chose, bien sûr. L'Inde a des bombes atomiques, le Pakistan a des bombes atomiques. Bien sûr qu'ils vont les lancer par bêtise, d'un coin à l'autre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le problème sera les bombes atomiques. Ça sera les armes, ça sera les réfugiés, ça sera plus le fait qu'on a chauffé le monde, on a réchauffé le monde de façon à ce qu'il soit invivable. Et donc, on a une définition très simple du problème. C'est des émissions de gaz à effet de serre, mais le public n'arrive pas à comprendre. Donc, par exemple, Trump a été élu parce que, entre autres, parce que les gens trouvaient que les œufs coûtaient trop cher. Les œufs. Alors, voilà.
En même temps, vous vous expliquez, Daniel Poli, cette inaction, ou parfois même cette cécité ou cette surdité aussi bien politique d'ailleurs que du grand public, par ce que vous avez appelé le shifting baseline,
oui,
c'est-à-dire le glissement du point de référence. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Mais bien sûr. Alors, en général, une personne va percevoir le monde autour d'elle à 15, 16 ans, le monde, la biodiversité, la façon dont les choses sont arrangées. Ensuite, les choses vont changer. Elles vont changer au cours de la vie de cette personne et cette personne peut réfléchir au changement et le voir. Les choses ont changé pendant ma vie. Mais ce que cette personne ne voit pas, de la même façon, moi, c'est que ses parents ont eu aussi le même changement, les parents des parents. Et donc, on perçoit les changements que ceux qui affectent notre vie et pas les changements d'avant. Donc, une jeune personne qui grandit maintenant, elle n'aura pas comme base, par exemple, qu'il y a des insectes dans le monde. Parce qu'il n'y a pratiquement plus d'insectes. Quand on va en voiture, quand j'étais jeune, il y avait vraiment des insectes sur le pare-brise. Maintenant, il n'y en a plus. Bon, alors, un enfant, il va commencer ici, sa vie va commencer sans insectes. Et donc, il ne va jamais s'engager pour qu'on remette pour qu'on crée une situation où il y aura de nouveau des insectes parce qu'ils ne l'ont jamais importé dans sa vie. Et ça, c'est le shifting baseline. Le point de référence, c'est toujours ce qu'on perçoit quand on est jeune, mais ça change d'une génération à l'autre.
Par exemple, on a pendant quelques années dit que le thon rouge disparaissait. Et puis, par des politiques actives,
oui,
on a fait en sorte que le thon rouge revienne dans les mers.
Exactement.
Mais vous dites, en fait, il y en a quand même moins qu'avant.
Bien.
C'est ça ?
Imaginez une situation, disons 120 ans. Il y a 120 ans, il y avait 100% de thon rouge. Il a diminué jusque dans les années 80 à 1 ou 2%. Ensuite, ça a remonté par des politiques éclairées à 5%, 5-6%. Donc, il y a eu il a doublé sa population, peut-être même triplé. Alors, un jeune homme, parce que dans ce cas, ce sera un jeune homme, qui commence à pêcher, eh bien, il n'aura jamais vu autant de thon. Et en plus, il augmente. Alors, quand un vieux scientifique se ramène et lui dit « les thons sont en mauvais état, il n'y en a plus que 6%, il dira « mais j'ai jamais vu autant de thon de ma vie ». Et j'ai entendu des pêcheurs le dire à la télé. Alors, bien sûr, ils sont complètement inaccessibles à l'idée qu'il y en avait 100. Puisque toute sa vie, il a vu le thon augmenter. Et ça, c'est la dérive des points de référence, parce que ça permet, c'est la raison pour laquelle l'homme, donc comme espèce, s'adapte à toutes les situations possibles. On peut vivre en Arctique, on peut vivre, bientôt on va vivre en Antarctique, bien sûr, on peut vivre dans la jungle, on peut vivre dans le désert, n'importe où, parce que on s'adapte justement par cette méthode, mais aussi on oublie tout. On oublie tout et on perd tout. Et on n'est même pas conscient du fait qu'on l'a perdu.
Pourtant, en tous les cas, dans votre cas, Daniel Poli, c'est pas faute d'avoir essayé, vous aussi, toute votre vie. Parce qu'en 1979 déjà, vous aviez 33 ans, vous parliez de surpêche et d'effondrement des stocks. En 95, un peu plus tard, vous avez publié un article dans Nature qui a fait beaucoup de bruit parce que vous y parliez de la pénurie des ressources marines. En 98, dans Science, vous avez écrit que les poissons devenaient de plus en plus petits et qu'il fallait faire attention à ça. Dans votre jargon, c'est les niveaux trophiques inférieurs.
Oui.
À la fin de l'article, vous disiez, on est en 98, si on continue comme ça, on pourrait se retrouver avec des dépotoirs marins dominés par du plancton. Et puis j'avance encore, en 2001, dans Nature encore, vous publiez un article qui fait grand bruit parce que vous contestez des chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, dont on a parlé dans des émissions précédentes, la FAO. On a les seules statistiques disponibles à l'échelle mondiale sont les statistiques de la FAO. Eh bien, vous disiez, ben non, ça va pas parce que la Chine, premier pêcheur du monde, fausse les chiffres. Est-ce que vous vous considérez comme un lanceur d'alerte ?
Ben, c'est ce que
on dit de vous.
On dit de
oui,
moi.
Mais vous.
Moi non, parce que en fait, quand on décrit la nature, on ne lance pas une alerte, on décrit la nature. Donc, on est un scientifique qui publie un truc, il est tout content d'avoir passé la revue de les opinions de ses éditeur anonyme, et d'avoir un papier dans Science, dans Nature, on ne lance pas une alerte, on décrit une situation. Et c'est interprété comme une alerte parce qu'il faut faire quelque chose. Et donc, non, je ne suis jamais vu comme un lanceur d'alerte, je décris simplement la situation dont j'espère qu'elle sera réparée. Et pour ce qui est de la Chine, à l'époque, j'étais l'ennemi public numéro un en Chine, mais ça s'est amélioré. Maintenant, je travaille beaucoup avec des collègues chinois et ils ont envoyé 2-3 ans plus tard à la FAO un expert qui a réduit les captures de la Chine officielle de 3 millions de tonnes pour qu'elle devienne un peu plus raisonnable.
Donc ça veut dire quand même que vous êtes écouté par certains politiques. Est-ce que vous avez été approché, sollicité, par exemple par l'Union européenne? Au Canada, est-ce qu'il y a des endroits, des moments où
non.
Et les politiques vous ont sollicité?
Non, en général, non. Ils ne m'aiment pas trop et j'essaie pas de le faire.
Vous n'aimez pas ça non plus?
J'aime pas trop ça parce qu'il y a tout de suite des contraintes. Je me souviens une fois de la Banque asiatique de développement à Manille. Ils m'ont demandé de faire un contrat pour eux. Alors, ils m'ont dit ce que j'avais à trouver.
Vous leur expliquez qu'un scientifique, ça ne travaille pas comme ça?
Pas question. Et donc, j'ai des relations, des bonnes relations avec des personnes dans ces différentes institutions, mais pas avec l'institution elle-même, parce que j'arrive pas à concevoir, je vois leur politique et j'aime pas trop.
Et à aucun moment, Daniel Pauly, vous ne vous êtes dit, pour faire vraiment du raffut, pour que ce soit vraiment efficace, je vais me lancer en politique?
Non. Par contre, je suis membre du comité de gestion d'une grande ONG qui travaille sur les océans, la plus grande spécialisée sur les océans, qui s'appelle Oceana. Et ça fait plus de 20 ans que je suis membre, et je suis un des seuls membres du comité qui n'est pas membre du comité parce que je les finance, mais parce que je donne des conseils. Non, la politique... D'ailleurs, je suis français, mais en France, on me demande toujours d'où je viens. Et en Suisse, je suis pas suisse, j'ai vécu en Suisse, mais j'ai un accent suisse, je l'ai peut-être perdu. Et au Canada, non. Par contre, j'ai eu peur aux dernières élections, que le Trump canadien, de ce bonhomme, donc j'ai voté d'une façon stratégique, comme tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que, presque tout le monde, c'est pour ça que l'autre a gagné. Non, je vois pas la politique, non.
Merci Daniel Pauly. On se retrouve demain pour la dernière. À suivre l'épisode 5, les poissons n'ont pas encore perdu. À demain. C'était À Voix Nue avec Daniel Pauly, réalisation Véronique Samouilov, prise de son Yvan Charby, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.